encore une fois pour ceux que j'ai vus de près et pour la première fois pour ceux que je n'ai pas encore vus de près. Vous savez, des fois, quand on prépare un message, c'est un peu comme quand on accouche de jumeaux. Il y en a deux qui se battent à l'intérieur. Je n'ai jamais accouché de jumeaux, hein, j'ai jamais accouché en général. Mais je me réfère au texte à la naissance de Jacob et de son frère, quoi. Les deux qui se battaient pour savoir qui va sortir le premier. C'était un petit peu comme ça dans mes pensées cette semaine, avec beaucoup de choses différentes qui se mettaient là. Mais vous savez que, je le dis souvent, je n'aime pas faire de différence entre une partie ou une autre de ma vie. J'essaie de vivre dans mes pensées sans aucune cloison, ce qui fait que c'est des fois un peu le bazar. Mais c'est bien parce que ça met beaucoup de choses en connexion aussi. Et je suis tombé l'autre jour, je ne fais pas de publicité, mais à la sortie de la COP, sur un livre qui m'a attiré, La vie secrète des arbres. C'est très rare que je lise autre chose que des romans, et ce n'est pas un roman. Mais je suis amoureux des arbres depuis tout petit, puis ça ne s'est pas atténué. J'aime les arbres. Et là, la vie secrète des arbres, ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent. Je me suis dit, ouais, c'est quoi ce truc, quoi. Puis j'ai jeté un coup d'œil et je l'ai acheté parce que j'ai été séduit. En fait, c'est un monsieur, un Allemand, qui était forestier. Donc je ne sais pas quel âge il a, mais quand il était tout jeune forestier, bah, il explique comment son boulot, c'était faire pousser des arbres pour les couper, pour faire des planches, quoi, point à la ligne, quoi. Et puis, petit à petit, il s'est aperçu que la forêt dans laquelle il travaillait était vivante. Et puis il s'est posé des questions, et puis il a réfléchi, et puis il a rencontré l'autre personne, et puis, il est passé du temps. Et je ne vais pas vous lire vous raconter tout le livre, vous pourrez le lire. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur comment ils communiquent entre eux. C'est incroyable, à des kilomètres de distance, par un système comme de la fibre optique qui est fait par les filaments de champignons qui permettent aux informations de passer d'une racine à une autre pour prévenir qu'il y a une attaque d'insectes. Et alors ils produisent un tanin qui font que les feuilles deviennent amères. C'est fantastique de voir comment Dieu a fait toute chose. Hein. Mais ce qui m'intéressait ce matin, c'est qu'à un moment, il explique comment, en se promenant dans une partie de la forêt qui était très très ancienne, qui n'est pas une forêt plantée par des hommes dans les 200 ou 300 dernières années. Quoi. Et puis là, il voit un rond, ce qu'il pensait être un rond de vieille pierre sur un diamètre de presque 3 mètres comme ça. Il dit, tiens, il y avait une construction dans cette forêt, qu'est-ce que c'est? Alors, il se penche, et puis il voit que ce n'est pas des pierres, ce cercle, mais c'est l'écorce d'une très très vieille souche qui est encore en place. Et puis il se dit, ah, ben, elle a dû fossiliser, c'est pour ça qu'elle est encore là. Alors, il prend son petit couteau, puisqu'un bon forestier a toujours son couteau dans la poche. Et là, il enlève un tout petit bout, et il voit que c'est vert. Et quand c'est vert, c'est qu'il y a de la chlorophylle, et puis il se dit, mais c'est pas possible. Cet arbre, il est coupé depuis à peu près 300-400 ans, d'après son estimation, parce que tout l'intérieur avait pourri, puis c'est le temps qu'il faut. Pour faire de la chlorophylle, il faut des feuilles, il faut de la nourriture, il faut du sucre, il faut de la lumière. Comment ce rond d'écorce peut encore avoir de la chlorophylle? Et là, il fait des recherches, et il découvre qu'en fait, les arbres autour nourrissaient la source par leurs racines, de racine en racine, et qu'ils prenaient de leur lumière, de leur sève, de tout ce qu'il fallait. Et puis, ils ont maintenu en vie cette vieille souche, qui probablement, d'après lui, était l'arbre duquel les autres autour étaient issus. Et puis, il explique comment après, il s'est déplacé dans d'autres, parce qu'il dit qu'on ne trouve pas ça dans les forêts plantées par les hommes récemment, c'est-à-dire dans les 2, 3, 400 dernières années. Hein. C'est récent pour un arbre, ça. Et ça m'a tout. J'ai aimé cette idée, et puis je vous lis un tout petit paragraphe, et après vous allez voir quand même, je vais faire le lien avec le texte biblique. Hein. Mais voilà. Pourquoi les arbres ont-ils un comportement social? Pourquoi partagent-ils leur nourriture avec des congénères et entretiennent-ils ainsi leurs concurrents? Parce qu'il explique qu'au début, ce qu'on lui a appris comme jeune forestier, c'est qu'il faut éclaircir les forêts. Hein. Couper plein pour en laisser juste un qui doit devenir très très fort. Quoi. Et puis lui, il est arrivé à la conclusion inverse, c'est que si on les laisse tous pousser ensemble, il y aura des plus gros et des plus petits, mais même d'un point de vue économique, il y aura plus de beaux arbres que si on les coupe, parce qu'ils prennent soin les uns des autres. Alors je continue. Pourquoi s'entretiennent-ils ainsi leurs concurrents? Pour les mêmes raisons que dans les sociétés humaines. À plusieurs, la vie est plus facile. Un arbre n'est pas une forêt. Il ne peut à lui seul créer des conditions climatiques équilibrées. il est livré sans défense au vent et à la pluie. À plusieurs, en revanche, les arbres forment un écosystème qui modère les températures extrêmes, froides ou chaudes, emmagasine de grandes quantités d'eau, augmente l'humidité atmosphérique. Dans un tel environnement, les arbres peuvent vivre en sécurité et connaître une grande longévité. Pour maintenir cet idéal, la communauté doit à tout prix perdurer. Si chaque individu ne s'occupait que de lui-même, nombre d'entre eux n'atteindraient jamais un grand âge. Les morts successives provoqueraient de grandes trouées dans la canopée, par laquelle les tempêtes pourraient s'engouffrer et endommager la forêt. La chaleur estivale parviendrait au sol et le dessécherait. Tous les individus en souffriraient. Chaque arbre est donc utile à la communauté et mérite d'être maintenu en vie aussi longtemps que possible. Même les individus malades sont soutenus et approvisionnés en éléments nutritifs jusqu'à ce qu'ils aillent mieux. Une prochaine fois, peut-être, les rôles s'inverseront-ils et ce sera l'arbre soutien qui, à son tour, aura besoin d'aide. Les gros êtres à l'écorce grise qui se protègent mutuellement me font penser aux éléphants qui vivent en troupeau. Eux aussi défendent chacun du membre du groupe, eux aussi aident les malades et les moins vaillants à reprendre de la vigueur. Je pourrais lire d'autres passages, mais je m'arrête avec ce livre-là pour le moment. Je parlais avec Benoît cette semaine, on a eu une longue discussion un soir, on a refait 2,5 fois le monde. Et je disais, je suis souvent en colère de voir que les principes que Dieu a établis pour faire fonctionner notre planète sont mieux défendus par des non-croyants que par les croyants. C'est triste, hein ? Peut-être un de ces prochains dimanches, en duo avec John, on a un projet de parler d'écologie d'un point de vue chrétien. Je pense que ça serait intéressant. On va faire ça à deux, peut-être sur plusieurs fois. Mais c'est un exemple qui m'attriste quand je rencontre des chrétiens qui n'ont rien à faire de la planète. De toute façon, un jour, Dieu va la brûler par le feu. Alors, pourquoi je m'en occuperai aujourd'hui ? Alors qu'on est censé être ceux qui croient que c'est Dieu qui a créé cette planète, qu'il a créée pour nous, qu'il l'a fait avec une intention. Hein. On croit ça et on ne s'en occupe pas. Et des gens qui croient qu'elle est issue du hasard sont prêts à dépenser leur vie pour la protéger, pour en prendre soin, pour la laisser en bon état à leurs enfants. C'est quelque chose qui devrait nous interpeller quand même. Et puis c'est pareil pour beaucoup de principes. Et en lisant ce livre, en commençant de lire ce livre sur la vie des arbres, ça m'a amené, par des recherches croisées, à tomber sur ce qu'on appelle la permaculture. Peut-être pour certains vous connaissez bien, pour d'autres ça ne vous dit rien. Hein. Et quand j'ai lu comment elle était définie, je me suis dit, mais c'est encore incroyable ce truc-là, parce que les gens qui font la promotion de ça, enfin, ça peut être des chrétiens ou ça devrait, mais ce n'est pas souvent des chrétiens en tout cas. Hein. Donc je vous donne 2-3 petites définitions très courtes. La permaculture originelle est la conception consciencieuse et la gestion de systèmes agricoles productifs qui possèdent les caractéristiques de diversité, de stabilité et de résilience des écosystèmes naturels. C'est l'intégration harmonieuse de l'homme dans son environnement pour qu'il puisse en retirer ce qui lui est nécessaire, la nourriture, l'énergie, le logement, ou plus généralement tout ce dont il a besoin de matériel ou non, pour vivre de manière soutenable et donc renouvelable. On dirait qu'en termes techniques, c'est le mandat que Dieu a donné à Adam et Ève au départ. Hein ? Ce jardin est là pour vous, faites-le vivre, il vous fera vivre, vivez ensemble. Et puis, on a complètement oublié tout ça. Et puis, juste dernière chose, avant qu'on mette tout ça ensemble, la permaculture s'appuie sur une éthique. Alors, c'est un ensemble de valeurs qui gouvernent la réflexion et l'action. Hein ? Et elle peut être résumée ainsi. Prendre soin de la nature, les sols, les forêts, l'eau et l'air. Prendre soin des êtres humains, soi-même, la communauté, les générations futures. Créer l'abondance pour redistribuer les surplus. Et c'est la phrase qui m'a arrêté. Créer de l'abondance pour redistribuer les surplus. Et je ne sais pas pour vous, mais moi ça m'a fait immédiatement penser, enfin ça me faisait déjà penser, mais à plein de passages des Écritures. Ça, c'est l'économie de Dieu. Je vous lis un texte maintenant qui n'est pas issu d'Internet, mais de la Bible, un écrit de Paul, 1 Corinthiens 8, 12. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que dans le futur, peut-être, leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Ça fait référence à l'époque où le peuple d'Israël était dans le désert, qui ramassait la manne, et puis y en a qui en ramassaient beaucoup, puis il y en a qui en ramassaient un petit peu, et puis il y en a qui ramassaient juste ce qu'il leur fallait, peut-être. Mais c'était impossible de la conserver, elle pourrissait si on la stockait jusqu'au lendemain. Donc chaque jour, on redistribuait, puis celui qui avait ramassé trop, il n'avait pas en trop, puis celui qui n'avait pas ramassé assez, il en avait assez. On retrouve exactement là ce que le forestier explique quand il étudie la forêt. C'est tout à fait logique. Qui a créé la forêt, c'est Dieu. Qui a inspiré ces textes, c'est Dieu. Donc il y a une unité derrière de pensée. Dieu ne pense pas d'une façon quand il s'agit d'un domaine spirituel, et puis différemment dans le domaine matériel, puis encore différemment dans le modèle économique, puis encore différemment dans le modèle relationnel. Dieu est un, il a créé l'univers. Il a créé la planète sur laquelle on vit, il a créé les êtres humains, et il les a créés à son image, enfin les êtres humains, mais tout le reste, c'est lui qui est derrière. Et donc il y a une unité d'intention. Quand on connaît un artiste, par exemple en peinture, en musique ou quoi que ce soit, si quelqu'un qui le connaît vraiment bien, si vous lui présentez une œuvre qu'il n'a jamais vue, il peut vous dire c'est de lui. Même si ce tableau-là, il n'a pas vu, ou si ce morceau de musique, il n'a jamais écouté, ou si ce texte, il n'a jamais lu. Parce qu'il a une façon d'écrire, une façon de peindre, une façon de composer qui fait que, pour un spécialiste, on le reconnaît. Les chrétiens devraient être des spécialistes qui reconnaissent la patte de Dieu partout. Mais on s'est tellement replié dans nos bâtiments, sur nous-mêmes, avec cette idée qu'on a échappé à l'enfer, c'est l'essentiel, il n'y a rien d'autre qui compte. Évidemment que c'est essentiel pour nous. Mais Dieu ne nous a pas créés juste pour échapper à la mort. Il nous a créés pour vivre. Et pour vivre les uns avec les autres, pour vivre selon une pensée qui est la sienne. On vit à une époque très individualiste où chacun, et je suis comme vous, vit selon l'évangile, selon moi. Je. Qu'est-ce qui est intéressant pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? Qu'est-ce qui est bien pour moi? Et puis on vit mal. Et alors on cherche à s'occuper un peu plus de nous et on vit encore plus mal parce qu'on n'a pas compris que, comme les arbres, comme l'Église dans l'intention de Dieu, comme la famille, comme la société humaine, Dieu a dit « Je ne vous ai pas créé pour vivre seul » parce qu'on a été créé à l'image de Dieu et que c'est un mystère, mais Dieu, il y en a un, ils sont trois, il y en a trois, ils sont un. Et chacun prend soin de l'autre. Et nous avons été créés en tant qu'êtres humains pour vivre comme ça, en communauté. Alors, ce n'est pas des camps de concentration, ce n'est pas des communautés où on est forcé de vivre dedans, mais on a besoin de prendre soin les uns des autres et on a besoin de comprendre qu'on n'est pas en compétition les uns vis-à-vis des ordres d'autres. Ce n'est pas en tuant les petits arbres autour de moi que j'aurai plus de lumière, plus d'eau et que je deviendrai plus fort, parce que peut-être dans une autre période de ma vie, je vais avoir, même si j'avais l'air le plus fort, une grosse difficulté, et puis c'est les racines des petits arbres autour de moi qui vont me maintenir en vie pendant un moment. Et puis ça va évoluer tout au long d'une vie. Et c'est quelque chose qui est important, et... Vous savez qu'on est en période électorale en France, là, c'est un cirque pas possible, je ne vais pas aborder ce sujet. Mais ce qui me frappe, c'est de voir quand même, pour tous les gens qui se disent sérieux, comme quoi la solution pour le futur de la planète, ça serait mettre plus de côté et consommer plus. Et on se dit... On dépense déjà une fois et demie ce que la planète produit chaque année. On vit dans nos pays avec une surabondance presque écœurante des fois, pendant qu'une partie de la population n'a pas le nécessaire. Et on nous dit, pour que ça aille mieux, il faudrait que l'an prochain, j'ai 4% de besoin de plus que cette année. Mais on est fou. Hein ? Il y a un mur, c'est loin, hein ? On nous dit, dans 500 ans, on va rentrer dans le mur, et la solution, c'est d'accélérer. Pardon ? Ah oui, parce que si on accélère de 4% chaque année, ça ira mieux. Oui, alors je sais que quand on marche et qu'on trébuche, en accélérant, on peut se rattraper. Mais il y a un moment où on ne peut plus, hein, parce que, boum, on tombe. Je veux faire ni de l'économie, parce que je ne suis pas du tout compétent, ni de la politique, parce que je ne suis pas du tout compétent non plus. Mais je voudrais rapporter ça à nos façons de concevoir nos vies, notre communauté et notre vie dans le monde où on vit. On a été créé pour faire ce qu'on a à faire, hein, et pas pour accumuler. Et je voudrais vous mettre en parallèle deux textes bibliques, j'y arrive doucement quand même à la Bible, hein, oui, qui ont l'air d'être en opposition, mais qui, comme toujours avec Dieu, se complètent. Le premier, c'est la parabole des talents. Je ne vais pas vous la lire en entier. Vous savez, c'est une parabole que Jésus raconte. Un homme part en voyage, il est très riche, il confie ses biens à différentes personnes, en leur disant, prends-en soin. Et puis, il donne au premier 5. Alors, quand on dit le mot talent, ça nous induit en erreur, parce qu'on pense que ça parle de talent. Le talent, c'était une mesure pour l'argent. Hein. Dans les traductions récentes, ils ont traduit par lingot d'or. 5 lingots d'or, 4, 3, 2, 1. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de savoir qu'un lingot d'or ou un talent, c'était 10 ans du salaire d'un ouvrier. Donc j'ai fait un petit calcul avec ma calculette, j'ai refait 3 fois, j'espère que je ne vais pas me tromper en le lisant. Hein. Si on partait sur un salaire de 4000 francs par mois, ça ferait 480 000 francs. Donc ça veut dire qu'au premier, il donne 5 fois ça. Hein. Et puis après, 4 fois, 3 fois, 2. Et le dernier, on a l'impression qu'il n'a rien donné au dernier, que c'est pour ça qu'il n'a rien fait. Il a quand même presque donné 500 000 francs, quoi. Ça vous est arrivé à vous quand vous confiez 500 000 francs ? Moi, ça ne m'est pas arrivé. Hein ? Comme dit Gad Elmaleh, c'est en arrivant à la douane et qu'on vous dit « Est-ce que quelqu'un que vous ne connaissez pas vous a donné quelque chose ?» Je dis, moi, déjà, les gens que je connais, ils ne me donnent rien. Alors, ce que je ne connais pas... Hein ? D'accord ? Mais donc, voilà, ces 5 personnes-là, elles ont reçu une beaucoup, une un peu moins, une un peu moins, une un peu moins, mais toutes quelque chose de consistant, hein. Le dernier, il n'a pas reçu 20 centimes, puisqu'il expliquerait que ben, qu'est-ce qu'on peut faire par 20 centimes à part acheter un bonbon, donc je le mets en terre et puis j'y rendrai. Non, ils ont tous reçu quelque chose qui pouvait servir à être développé. Hein. Et puis ben, le premier avec 5, il en a fait 5 de plus, le deuxième avec 4, il en a fait 4 de plus, 3, 3 de plus. Et puis le dernier, il n'a rien fait avec ce qu'il avait. D'accord. Et donc là, on a un premier principe qui est ben, ce qui vous a été confié, faites-le fructifier. Et puis, il y a un autre principe dans la Bible où Paul parle, et là il parle de gens qui se disputent parce que moi je préfère Paul, moi je préfère Apollos, moi je préfère Pierre, non, moi je suis de Christ, qui c'est le meilleur des apôtres, etc. Et puis il leur dit, tout ça c'est de l'orgueil, hein. Et 1 Corinthiens 4, 7, car qui te confère une distinction ? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné ? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ? Des fois, dans cette période-là électorale, j'étais en vacances en France et j'ai discuté avec plein de gens. Et puis, les gens me disaient, oui, mais vous comprenez, nous, avec ce qu'on a, on ne veut pas qu'on nous le prenne. Je dis, mais tu as fait quoi, toi, pour naître en France ? Ben, parce que je suis français. D'accord ? C'est quoi le mérite là-dedans ? Tu aurais pu naître en Afghanistan, en Iran, en Angleterre, aux États-Unis. Quelle horreur. Non, je veux dire. D'accord. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Après, on n'a pas choisi le pays, mais on n'a pas choisi la famille. Et puis, je n'ai pas choisi la couleur de mes yeux, je n'ai pas choisi ma taille, je n'ai pas choisi en plein, en tout cas, mon métabolisme. Je n'ai pas choisi ma... Alors oui, mais moi, ce que j'ai, c'est parce que j'ai travaillé. Oui. Mais ta capacité à travailler, elle vient d'où ? Hein ? Il y a des gens qui naissent avec une grande capacité de travail, d'autres qui l'ont pas. Il y en a qui naissent avec une intelligence dans certains domaines remarquables, d'autres, c'est limité. Puis il y en a qui semblent avoir reçu tout. Hein ? Pourquoi le premier qui a eu 5, et puis l'autre, il a 1 ? on n'a pas d'explication à ça. Mais avec ces deux principes-là, ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu n'est pas communiste et Dieu n'est pas capitaliste. Ça, on peut le dire. Dieu n'est pas du tout pour tous pareil. Alors, vous allez tous avoir deux talents et vous allez tous devoir produire deux talents et vous serez imposé pareil sur les deux. Non. 5, 4, 3, 2, 1. Pourquoi ? Parce que Dieu aime la diversité et parce que Dieu ne mesure pas la valeur que nous avons à ce qu'il nous donne ou à ce que nous faisons. Ça, c'est la plus grosse erreur des êtres humains. Il n'aime pas plus celui qui a 10 talents que celui qui en a 3, 4, 2. C'est juste qu'il y en a un qui en a 10, il y en a 3, un qui en a 2. Pourquoi ? Aucune idée. Mais ça n'a rien à voir avec notre valeur. Hein. Donc, notre valeur n'est pas, là-dedans. Mais par contre, notre responsabilité. Et puis, ce que j'ai reçu, je suis responsable d'en faire quelque chose. La façon de faire avancer le monde des entreprises aujourd'hui, c'est peut-être pas partout, j'espère, mais de plus en plus, malheureusement, c'est de mettre les gens en compétition. L'employé du mois, le meilleur, celui qui a... Et puis, d'ailleurs, ça arrive dans les églises aussi, hein, avec celui qui a fait plus, celui qui a... Combien de conversions, combien de baptêmes, super. Non. Oui, nous avons une course à courir, et Paul le dit bien, mais nous courons la course qui est la nôtre. Notre compétition à nous, c'est avec... Les cartes de départ que Dieu m'a données, je n'ai pas choisi de naître français, je n'ai pas choisi ma génétique, je n'ai pas choisi mes dents, je n'ai pas choisi mes capacités, mais j'ai reçu des cartes quand je suis né. Alors je peux passer ma vie à les comparer à celles des autres, et puis soit je vais être très orgueilleux parce que j'en ai plus que d'autres, soit je vais être déprimé parce que j'en ai moins que d'autres, parce qu'il y a toujours plus et moins, hein. Et puis je peux utiliser ça pour justifier que j'en fais rien ou que j'écrase les autres ou que je suis meilleur ou moins bon. C'est stupide. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ok, ça prend des années pour découvrir qui on est. On passe notre vie entière, mais quand même, il y a un moment, on doit un petit peu avoir fait le tour, accepter qu'on a ce qu'on a, qu'on est ce qu'on est, et puis se dire qu'est-ce que moi je peux faire avec ça au mieux ? Comment, avec ce que Dieu m'a donné, je pourrais essayer de produire du superflu pour le distribuer aux autres. Voyez ? Dans le communisme ou dans l'idée, on est tous pareils. Quand je dis communisme, c'est pour... Tous pareils, ça veut dire pourquoi je produirais du superflu, puisque de toute façon, on va me le prendre. Donc je fais le minimum pour moi et ça ira très bien. Non, j'ai vécu dans un pays communiste, enfin post-communiste, pendant 14 ans. J'ai vu ce que ça avait produit, c'est une catastrophe. Hein. Mais nous vivons dans des pays où le but, c'est de mettre de côté quand on a déjà de côté pour que ceux qui ont beaucoup de côté mettent encore plus de côté. Et c'est horrible aussi. C'est horrible aussi. Sauf si vous êtes celui qui est en haut et qui met beaucoup de côté. Mais en fait, il n'est pas heureux non plus. Mais Dieu ne dit pas ça. Dieu dit, moi, je donne ce que je veux, à qui je veux, comme je veux. Il n'y a pas d'égalité. L'idée que les êtres humains sont égaux, j'en ai déjà parlé, elle est fausse. On n'est pas égaux. On a la même valeur. Dans un même contexte, on essaie d'avoir les mêmes droits. Ça, c'est intelligent. Mais dans la réalité, ce n'est pas vrai. Parce que vu qu'on n'est pas égaux, on n'a pas les mêmes droits. Hein ? On est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Par contre, avec ce que moi j'ai, qu'est-ce que je peux faire ? Et qu'est-ce que je peux faire en m'intégrant dans le système ? Et là, on revient à notre définition de la permaculture. Hein ? L'intégration harmonieuse de l'homme dans son environnement pour qu'il puisse en retirer ce qui lui est nécessaire, tout ce qu'il a besoin pour vivre de manière soutenable. Soutenable dans ce contexte-là veut dire sans épuiser les réserves pour que ça puisse fonctionner. Comme ce que Dieu a fait. Une forêt, si on ne la touche pas, si l'être humain n'était pas là, elle peut vivre des milliards d'années. Tout va bien. Elle n'aura pas trop, pas assez. Il y aura des cycles, il y aura des périodes, il y aura des années comme cette année où il gèle, il y aura moins de fruits. Mais là, on parle sur le long terme. Ça fonctionne parce que ça ne s'use pas. Quand l'arbre tombe, il nourrit les autres. Ça fonctionne. Tout ce que Dieu a créé fonctionne de manière soutenable. Ça ne s'épuise pas. Ça fonctionne bien. Et puis, il y a l'être humain qui est introduit là-dedans et qui devait, lui, s'intégrer dans un système soutenable. Hein, y vivre sans rien détruire, en prenant ce qu'il lui faut juste pour vivre, pas pour ce qu'il pourrait mettre de côté pour ses arrière-arrière-petits-enfants dans 10 000 ans. Et puis, ben, le plan de Dieu, c'était quand ils ont fait leur temps, il les sort de là, puis il les prend avec lui, parce qu'ils ont fini l'école, ils vont passer à l'étape d'après. Hein, et ils n'ont rien détruit, ils ont entretenu ça. Et puis ça fonctionne. On a tout cassé parce qu'on a pensé qu'on était plus intelligent que Dieu, et puis qu'en étant nous-mêmes Dieu, et en étant le centre de l'univers, on allait mettre les choses comme il faut. Et puis on voit dans quel état on a mis ça. Là, on a réussi. Hein. On a fait bien. Hein. Puis c'est triste parce qu'on est toujours comme ça. Hein. Puis si on laisse aller les choses, on fait toujours comme ça en tant qu'être humain. Alors le but, c'est pas de nous dire « Oh, quels misérables nous sommes » ou au contraire, mais c'est juste de réfléchir en se disant « Comment je peux vivre harmonieusement avec ce qui m'entoure ?» Mais dans cette idée que le but, c'est pas de m'assurer un avenir ou d'acheter ma valeur, ou de, c'est juste de faire ce que j'ai à faire et de le faire de tout mon cœur. Et puis, si ça produit du superflu, d'être content de bénir les autres. J'ai eu le privilège dans ma vie de connaître quelques personnes, pas beaucoup, mais une ou deux, qui sont devenues très riches. Quand je dis très riches, je parle de très, 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 très riches. Et de voir, je pense en tout cas à un couple, ils ont continué de vivre comme ils vivaient, qui était d'une façon plus que simple. Des fois, on devait même les gronder en disant, écoute, tu pourrais quand même changer ton jean, là, il est déchiré, tu nous fais honte quand tu viens à l'église. Quoi, tu vois. Mais ils avaient des milliards, hein, ou des millions en tout cas, et puis ils s'en servaient pour faire du bien à droite, à gauche. C'est un héritage qu'ils ont reçu, qu'ils n'attendaient pas à un certain âge. Et ils n'ont rien changé à leur façon de vivre. Ils avaient toujours un vieux Natel pour deux qui ne marchait pas bien. Et, ah, ben, il peut encore tenir un an, on verra. Et tout. Pourquoi on changerait de façon de vivre maintenant qu'on a de l'argent? Moi, je ne sais pas si j'aurais pu réussir ce test-là, je ne pense pas. Hein. Mais c'est magnifique de voir ça. Et ils ont fait du bien intelligemment, pas en distribuant n'importe quoi, n'importe où, hein, pendant des années, puis peut-être encore, enfin maintenant, un des deux est décédé. Mais... Et ça, c'était magnifique de voir ça, parce que j'y croyais pas, moi. J'ai quand même cette idée que hein, quand on a du superflu, ouais, c'est beau la théorie quand on est pauvre de dire si j'avais du superflu. Mais plus on engraisse, plus on se dit, oh, mais c'est pas du superflu. Ça, c'est juste du nécessaire. Hein, donc, quand même, avec trois yachts, s'il y en a deux qui tombent en panne, hein, c'est quand même nécessaire. Hein. Et puis, voilà. Mais on est comme ça naturellement. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Hein. Avant la chute dans le jardin, Adam et Ève ne faisaient pas de provisions. Ils savaient que le jardin pourvoyait à leurs besoins. Ça aurait été stupide de faire des provisions. Il y aura toujours des fruits, il y aura toujours de l'eau, il y aura toujours à manger, il y aura toujours Dieu pour prendre soin de nous. On risque rien. Mais après, effectivement, il y a des raisons. Et en même temps, Jésus dit à cet homme qui, vous connaissez cette histoire dans l'évangile, hein, ah, j'ai engrangé, j'ai rempli mes granges de biens, j'ai de quoi tenir plusieurs années, mon âme, tu peux être tranquille. Et Jésus dit, quel idiot! Cette nuit même, ton âme te sera redemandée et tes biens, ils iront à qui? Hein? L'Ecclésiaste déjà avait compris ça. Il dit, un homme travaille toute sa vie pour économiser, pour mettre de côté. D'un coup, il meurt. C'est son fils qui hérite, il dilapide ça en 15 jours. C'est stupide. Hein? Mais on est comme ça. Alors, on a besoin de découvrir quand Jésus dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il dit aussi, le but, ce n'est pas de se priver du nécessaire pour faire plaisir aux autres. Plus souvent, des gens qui étaient pratiquement dans le besoin essayaient de prélever sur leur nécessité, disent oh, « qu'est-ce que je pourrais mettre ça au service des autres ?» Mais à ne pas cloisonner nos vies. Parce que moi, maintenant, ça fait plusieurs années, mais un jour... Et puis, dans les aspects pratiques de ma vie, j'avais des convictions qui étaient contraires. Ça, le dimanche matin à l'église, et puis au moment d'aller voter, je pense complètement différemment, et puis au moment où je reviens dans un bâtiment et je pense autrement, ou je pense avec Dieu les 10 minutes, ou collègues, complètement différemment des principes que j'avais quand je lisais ma Bible. Et puis, on ne doit pas vivre comme ça. On doit harmoniser nos vies. Parce que c'est de là que vient le stress. Le conflit entre nos différents harmonieusement dans cette vie. Alors, on est dans un univers, dans un monde qui ne vit pas harmonieusement. Donc, mais c'est ce que l'Église doit être, un endroit où chacun est en compétition pour courir la course qui est devant lui, parce qu'on a besoin de défis, et pour donner le meilleur en se disant, ben, avec ça, ça fera ce que ça fera. Si ça ne fait pas assez, si ça fait trop, je vais pouvoir redistribuer. Waouh, c'est super comme ça. Être un professionnel et des spectateurs, ça ne marche pas. C'est nous tous reliés par nos racines, et puis avec le même soleil, la même lumière, le même air, et en même temps, tous différents. Il y en a, ils poussent droit, je ne sais pas comment ils font. Il y en a, ils poussent tordus, ça je sais comment. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais c'est comme ça. Et puis on le voit dans tous les domaines, on a des enfants, et puis on les élève pareil, on a les mêmes valeurs avec eux. Puis un, il pousse comme ça, puis l'autre, il pousse comme ça, puis l'autre comme ça, et puis l'autre comme ça. Mais on peut rester lié par nos racines. Et je termine avec ça. C'est vraiment le bazar, vous avez vu ce matin. J'ai écrit un petit mot quand il y avait la fête de les 40 ans de... Vous y étiez Thierry et Carmel, hein, tiens, pas. De la fraternité, voilà. Et puis, j'ai essayé d'écrire ça honnêtement. Et à la fin, j'avais cette image qui me venait, je disais... On était plantés aux deux coins opposés du même verger, mais nos racines ont fini par se retrouver et nos branches par se rejoindre parce qu'on vit de la même lumière. Et puis on a été greffés en fait sur le même olivier. Alors oui, nous on est les branches complètement là-bas, puis les autres ils étaient les branches complètement là-bas. Et puis un jour on s'aperçoit, ah mais ouais, on a les mêmes racines, on vit de la même lumière. Alors on peut être différent, c'est pas un souci, hein. Et puis, ensemble, on marche la même chose. Je ne sais pas si vous avez fait attention sur la dernière pensée du mois. J'ai trouvé un nouveau nom pour vous. Je vous appelais ma famille tournesol. Ça veut dire que j'aime être avec vous parce qu'on cherche le soleil ensemble. Et puis, comme des joueurs de tennis. Hop. Et j'aime ça, ma famille tournesol. Parce que j'ai pas besoin d'être une fleur unique dans un pot avec des projecteurs. Je suis le tournesol de l'année. Mais être un tournesol dans un champ de tournesol avec vous tous, et puis on cherche ensemble le soleil et on puise au même, dans le même endroit. Et puis peut-être que maintenant, en plus, j'ai appris que nos racines, sans qu'on le voit, elles se touchent. Et puis on est peut-être loin, mais on communique pour se protéger, pour s'aider, pour se soutenir. Ah, c'est beau, ça, ça fait du bien. Ça, c'est l'évangile. Et puis, il n'y a pas de frontières. Et puis, c'est le royaume de Dieu. Et puis, on va de l'avant avec ça. Alors, Seigneur, merci pour le monde dans lequel tu nous as mis, pour la sagesse qu'il contient, parce que c'est toi qui l'as créé. Et ça nous parle de toi, de ton intelligence, de sa conception des choses. Et puis, nous sommes des intrus. Et tu nous aimes pourtant. Et tu nous as donné de la valeur. Tu nous as achetés, rachetés. Et apprends-nous à vivre harmonieusement avec nous-mêmes, avec toi, les uns avec les autres, avec le monde que tu as créé. Et que nous puissions continuer ensemble de pencher nos têtes vers toi, pour capter ta lumière, pour aussi boire ton eau, pour nous nourrir, pour nous soutenir. Et que ouais, nous puissions être unis les uns les autres comme tu nous l'as demandé. Afin que le monde voie que nous sommes en lien avec toi et que nous vivons des mêmes principes que tu as mis dans la création, Seigneur. Merci pour tes pensées, merci pour ta fidélité, merci pour la communauté et merci pour tout, Seigneur, en fait. Et sois glorifié dans nos vies.